Bienvenue en Normandie. Comme dans toutes les autres régions de France, il y a des crimes, des faits divers. Nous allons vous raconter ce soir trois d'entre eux. Tout commence en 1999 lorsque Yves Godard disparaît en mer, en voilier, avec ses deux enfants. Alors que les enquêteurs envisagent la thèse du naufrage, ils constatent que Marie-France, l'épouse du médecin, n'était pas à bord du voilier et elle a également disparu. Au domicile familial de Tilly-sur-Seul et dans la voiture du couple, les gendarmes retrouvent le sang de Marie-France. De quoi sérieusement pencher vers la piste criminelle. Mais les mois suivants, des indices troublants vont donner du fil à retordre aux gendarmes, qui n'auront de cesse de traquer ce médecin et de tenter de percer le secret de la disparition de toute cette famille.
C'est des enfants qui ont disparu dans des conditions qui, à mon avis, sont tragiques. Et puis il y a des familles qui sont toujours dans le questionnement.
Le 27 avril 2007, à Orbec, les parents de Gaël s'inquiètent. Leur fille de 21 ans aurait dû les rejoindre dans la pâtisserie qu'ils tiennent dans le village. Les heures passent et la jeune femme ne réapparaît pas. Jusqu'à ce que son père retrouve le corps sans vie de sa fille à son domicile, maculé de sang. Sur place, les gendarmes vont être confrontés à une scène de crime d'une rare violence. Gaël a reçu des dizaines de coups de couteau au cou, au torse et à la tête. Commence alors une enquête complexe et le combat de toute une famille pour savoir qui se cache derrière ce crime barbare.
Qui en voulait à Gaël? C'est une fille qui aimait pas les histoires. On vous la tue. C'est là que vous comprenez pas, dit mais pourquoi?
Le 19 mai 2009, un incendie se déclare dans un pavillon de Louviers. Sur place, les pompiers découvrent le corps calciné de Claire. Cette institutrice de 36 ans a été massacrée à l'aide d'une arbalète et d'une vingtaine de coups de hache. Alors que les pompiers découvrent la scène d'horreur, au même moment, un homme se présente à la gendarmerie. Pierre Guillaume est le compagnon de Claire et le père de ses deux enfants. Durant de longues minutes, il va livrer son projet macabre. Contre toute attente, il ira même jusqu'à regretter de ne pas avoir eu le temps d'achever son plan qui comptait d'autres victimes.
L'espace de quelques secondes, elle sait que son mari est en train de lui donner la mort.
Nous sommes au mois de septembre 1999, la rentrée des classes a sonné, mais le docteur Godard, sa femme et ses deux enfants ont mystérieusement disparu. Commence alors une enquête incroyable qui va durer pendant plus de 13 ans avec des rebondissements plus surprenants les uns que les autres. C'est ce document que je vous propose tout de suite de regarder dans Crime.
Dans l'histoire qui va suivre, vous allez découvrir une affaire hors norme qui a tenu en haleine toute une région pendant près de 13 ans. Une traque qui aura conduit les enquêteurs dans le monde entier et où la mère a joué un rôle inédit de délateur.
C'est des enfants qui ont disparu dans des conditions qui, à mon avis, sont tragiques. Et puis il y a des familles qui sont toujours dans le questionnement.
Nous sommes à Tilly-sur-Seul, en Basse-Normandie, à une vingtaine de kilomètres de Caen. Détruit par les combats de l'été 44, le village a été reconstruit dans l'urgence. Sa singularité, Tilly-sur-Seul la doit à la Vierge Marie, car à la fin du 19e siècle, la bourgade fut le théâtre de multiples apparitions inexpliquées.
En 99, la commune de Tilly-sur-Seul est une commune très calme, rurale, 1256 habitants de mémoire. C'est une commune qui n'a pas plus de faits divers que les autres. À la limite, on se sera ennuyé du manque d'activité dans la commune.
Nous sommes le lundi 6 septembre 1999, une semaine après la rentrée des classes. Devant l'école Jacques Prévert, on se presse, car la cloche vient tout juste de sonner. Mais parmi les élèves, deux manquent à l'appel depuis déjà 3 jours. Il s'agit de Marius Godard, 4 ans, et de Camille, sa grande sœur de 6 ans, qui vient de rentrer en CP.
Personne n'était avisé d'une absence programmée des enfants pendant une semaine. Les enseignants se disent, bon, c'est peut-être des vacances d'été qui tardent.
Une absence qui ne passe pas non plus inaperçue à 170 km de là, à Saint-Malo, en Bretagne. Depuis la veille, un homme attend le retour de son voilier, le Nick. Voilà 5 jours qu'il l'a loué à un plaisancier et ses 2 enfants. Le plaisancier s'appelle Yves Godard et devrait déjà être rentré.
C'est pas quelque chose qui a inquiété tout d'abord le loueur parce que ça peut arriver que quelqu'un qui loue ne rentre pas obligatoirement le jour même mais rentre le lendemain. Là, il est étonné parce que les gens n'ont pas prévenu.
Il n'avait aucune nouvelle, pas de coup de téléphone. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. On est quand même 14 ans en arrière.
À Saint-Malo, l'inquiétude monte. D'autant qu'un élément du bateau vient d'être repéré en pleine mer, à 65 km des côtes.
Et on retrouve simplement une annexe d'un bateau de plaisance que des pêcheurs trouvent et signalent.
À l'intérieur de l'annexe, les pêcheurs retrouvent un blouson et le chéquier d'un certain Yves Godard. C'est le plaisancier qui a loué le bateau il y a 5 jours avec ses 2 enfants, Camille et Marius. L'alerte est alors donnée auprès des gendarmes maritimes de Roscoff et de la section de recherche de Rennes.
On est sur une disparition inquiétante. Peut-être un naufrage en mer, peut-être un accident en mer.
Qu'est-il arrivé aux plaisanciers? Pourquoi ne sont-ils pas de retour? Ce sont les premières questions que vont se poser les enquêteurs. Et il y en aura des centaines d'autres. La première chose que les gendarmes redoutent, c'est le naufrage. Il n'y a pas de temps à perdre. Les recherches commencent. Et tandis que des avions survolent la côte, les bateaux de sauvetage prennent la mer. Une véritable course contre la montre s'engage pour retrouver Yves Godard et ses 2 enfants.
Il y a beaucoup de choses de fait. Hein. On vérifie les appels au secours. Bien sûr, la météo. Hein. C'est là qu'on se rend compte que dans ces journées-là, quand même, la météo était particulièrement bonne. On fait des diffusions, ils font des diffusions même jusqu'en Angleterre, sur les côtes sud de l'Angleterre.
Les gendarmes font ensuite le tour des ports et interrogent également les plaisanciers. Parmi eux se trouve le maire de Tilly-sur-Seul.
Le même jour, à la même heure, j'étais à quelques encablures de lui, puisque je naviguais entre Port-Bail et Jersey, et lui, il était à Saint-Malo, donc c'est vraiment très proche. Il faisait beau, il n'y avait aucun risque de tempête, donc aucun risque de naufrage.
D'autant qu'en cas de problème, les plaisanciers peuvent communiquer entre eux.
La VHF est toujours branchée, on n'a entendu aucun appel au secours. Et puis, avec des journées si belles en mer, les accidents, c'est le coup de soleil.
Face à cette première anomalie, les enquêteurs vont donc tenter de retracer l'emploi du temps de la famille et le parcours du bateau. Ils commencent tout d'abord par entendre le loueur. C'est le dernier à avoir vu Yves Godard.
Sur cette première semaine de septembre, on ne sait pas grand-chose. On sait que, de mémoire, le 1er septembre à 10h30, il arrive sur le quai de Saint-Malo, chez le loueur de ce bateau qu'il avait réservé une quinzaine de jours avant. Qu'il arrive en présence des 2 seuls enfants, du moins, le loueur ne voit pas de présence d'une quelconque femme.
Le loueur a face à lui un homme calme, quoique peu loquace. Les enfants, eux, jouent tranquillement sur le ponton.
Il va faire le tour du propriétaire avec le loueur qui va venir lui mettre entre guillemets les clés de l'embarcation du bateau sur le quai des Sablons.
Il a trouvé aussi très bon navigateur, hein, parce qu'il a bien vu que les questions posées, c'était quelqu'un qui connaissait la voile, qui connaissait le bateau, qui connaissait le monde de la navigation de plaisance. Voilà, hein, et quand il lui a posé la question « Pourquoi vous louez ce bateau ?», il lui a dit qu'il partait quelques jours faire une promenade dans la région, mais sans plus.
Les 2 hommes se séparent. Yves Godard va faire des achats avec ses enfants. Des sacs poubelles, du détachant, des bonbons et une bouteille de whisky. C'est peu pour 5 jours de croisière. Vers 15h, la famille prend la mer, direction l'ouest de la Bretagne. Le bateau est repéré par un douanier le lendemain, vers 19h, devant les Sables d'Or.
Il voit ce voilier qui, pour lui, il n'a pas un comportement bizarre, mais les voiles sont affalées, il est au moteur et l'annexe est donc accrochée derrière. Donc c'est quelque chose, il se dit, tiens, c'est bizarre parce que bon, les conditions météo étaient très bonnes, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la voile? Voilà, bon, puis c'est un voilier qui s'approche, donc il se dit, en rentrant, nous, on va le contrôler.
Yves Godard explique au douanier qu'il est en vacances avec ses enfants qui se reposent dans l'habitacle.
Il verra un enfant dormir sur une des petites bannettes là, voilà, il verra pas le deuxième. Et voilà, et le docteur Godard va lui confirmer qu'il a loué ce bateau à monsieur Hiroux. Le douanier connaissant monsieur Hiroux, de toute façon c'est son idée, il se dit bah je vérifierai de toute façon par radio. Voilà, mais bon, il y a rien de spécial, il lui montre les papiers qu'il lui demande.
Et ce qui est curieux, c'est que le douanier dira spontanément, ultérieurement, eh bien, je me suis vraiment posé la question de l'attitude de ce type-là. Et il dira, je crois, à un collègue, un type qui aurait tué sa femme, qui viendrait de tuer sa femme, pourrait avoir la même attitude.
D'autres diront avoir vu un père et ses enfants à l'embarcadère de Roscoff le 5 septembre. Les enquêteurs sont perdus. S'agit-il bien d'un naufrage ou d'une fuite de la famille ? À ce stade, toutes les hypothèses sont permises. Alors que les recherches en mer se poursuivent, les gendarmes vont tenter de joindre les proches des Godard. Peut-être qu'en Normandie, quelqu'un s'inquiète de cette disparition.
On les rencontre, on essaie de voir s'ils étaient au courant de ce départ en mer, de ce qui est quand même très étonnant, puisque la rentrée scolaire a eu lieu.
Grâce aux différents témoignages, les enquêteurs s'aperçoivent que la femme de Yves Godard, Marie-France, la mère de Camille et Marius, n'a pas pu embarquer avec eux. Elle déteste la voile. En outre, elle en aurait parlé à ses deux aînés, issus d'un premier mariage.
Il est absolument constant que Marie-France n'avait aucune connaissance de ce projet de départ du 1er septembre en mer, puisque elle avait des rendez-vous. Elle avait régulièrement ses enfants d'un premier mariage au téléphone.
Elle ne dit pas à ses enfants qui sont plus âgés que Marius et Camille, elle ne leur parle pas d'un voyage, d'une croisière, d'une promenade en mer avec son mari. Tout le monde tombe des nues.
D'autant plus troublant qu'à Saint-Malo, personne ne l'a vu. Mais à leur domicile, à Tilly-sur-Seul, personne ne répond. Les gendarmes décident donc de s'y rendre. Nous sommes le 7 septembre 1999, soit deux jours après que la disparition des Godard ait été signalée.
Il y a les prémices d'une enquête judiciaire avec la brigade locale qui va aller taper à la porte de chez les Godard pour voir s'il y a âme qui vive et pénétrer à l'intérieur et pour constater en tous les cas que personne n'est revenu, que la maison est fermée.
Les gendarmes sont accompagnés de témoins. Il y a parmi eux le maire de la commune.
On rentre dans la maison, on découvre une maison normale, et puis on monte à l'étage.
Au premier étage, il y a la chambre maritale, la chambre du couple Godard, et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des traces suspectes.
Une trace de sang sur le lit, environ 40 à 50 cm de diamètre.
Et ce n'est pas tout, il y a des projections encore plus flagrantes.
Et puis sur le mur, quatre traces de sang qui ressemblent à des giclées de sang. Et dans la salle de bain, quelqu'un qui a nettoyé du sang au niveau du lavabo. Donc là, évidemment, on pense tout de suite qu'il s'est passé un malheur. Et c'est là que l'enquête commence.
La banale affaire pour disparition inquiétante vient de basculer. Une cellule spéciale est créée avec une quarantaine de gendarmes.
Et par suite des investigations au domicile, on retrouve assez rapidement, deux ou trois jours de mémoire après, le véhicule Volkswagen Combi sur le port de Saint-Malo, tout proche de l'amarrage du bateau loué, avec à nouveau des traces de sang dans le véhicule.
Il n'y a pas le même type de projection qu'à l'intérieur de la maison. Ces traces infimes, elles seront sur des longerons de portières, de mémoire, et puis également sur le plancher. Mais elles existent bien. Les TIC, les techniciens d'identification criminelle qui travaillent dessus, vont les déceler rapidement.
Des traces fraîches, sans doute du sang humain que l'on a tenté de nettoyer.
Le sang est identifié comme étant le sang de Marie-France, le même que celui trouvé au domicile.
C'est pour ça que là, rapidement, une ouverture d'information est faite ici, au tribunal de grande instance de Saint-Malo. Parce que bon, voilà, il y a du sang, une quantité quand même assez importante. On peut penser qu'il est arrivé quelque chose, notamment à Madame Godard.
S'il est arrivé quelque chose à Marie-France, cela s'est forcément passé entre le coup de téléphone à sa fille aînée, le 31 août à 20h, et le lendemain matin, à 8h45. Le moment où un voisin a vu le véhicule des Godard partir pour Saint-Malo.
De nombreuses investigations ont été mises en œuvre avec des fouilles d'une centaine de lieux, à une vingtaine de kilomètres autour du domicile, avec des recherches subaquatiques par des plongeurs de la gendarmerie, etc., dans divers étangs, dans la petite rivière qui passe près de Tilly, ça n'a rien donné.
L'enquête s'oriente alors vers la piste d'un drame familial. Yves Godard aurait-il fui avec ses enfants après avoir tué sa femme ? Et qu'aurait-il fait de son corps ? Les gendarmes vont tenter d'en savoir plus sur ce couple. Les enquêteurs penchent désormais pour la thèse du crime et ils vont chercher à en savoir plus sur la personnalité d'Yves Godard. Pour Michel, l'un de ses amis, il n'a rien d'un meurtrier.
Je me souviens le soir, lorsque nous étions autour d'une table, il était toujours avec son petit col indo-pakistanais, bel homme, belle prestance, très calme, vraiment d'un calme olympien.
À 43 ans, c'est un médecin généraliste de ville et qui a pour réputation d'aller sur des terrains thérapeutiques audacieux. Les médecines parallèles l'attirent. Il n'hésite pas à associer magnétiseur et cartomancienne à sa pratique médicale.
Lui est un très bon professionnel, même s'il a eu des problèmes, parce qu'il a des pratiques un petit peu originales, notamment l'acupuncture.
Il a même pris une interdiction d'ailleurs, une suspension d'activité au tout début, lors du dépôt de sa thèse.
Mais il n'en demeure pas moins que c'est un bon praticien, il est très respecté par ses patients, très apprécié par ses patients, il a une patientèle importante.
Yves Godard est déjà marié et père de deux enfants lorsqu'il rencontre Marie-France en 1991. Elle aussi a une vie de famille, mais l'un comme l'autre vont décider de tout plaquer pour se mettre en couple.
Il est très attaché, très amoureux de son épouse.
Au début, il y avait un amour fou entre eux.
En 1993 et 1995, il donne naissance à Camille et Marius, dont Yves Godard s'occupe énormément. Lui semble comblé par cette vie de famille retrouvée. Marie-France, elle, semble s'ennuyer.
Elle tenait de temps en temps le secrétariat du cabinet, de temps en temps, autrement elle s'occupait beaucoup d'elle.
Mais rien ne permet, dans les personnalités de chacun, d'expliquer a posteriori ce qui aurait pu se passer.
Les enquêteurs tentent alors d'en savoir plus sur la vie que menait le couple. Dans la maison de Tilly, ils récupèrent le journal intime de Marie-France. Depuis quelques mois, elle y consigne toutes ses pensées les plus intimes.
Elle suivait un psy à l'époque, avec lequel elle entretenait peut-être une relation amoureuse platonique, parce qu'elle voulait partir avec lui et qu'elle voulait laisser tomber son mari pour refaire sa vie.
Peut-être que monsieur a senti ce malaise arriver et qu'il sentait peut-être qu'il était en train, à terme, de perdre l'amour et la passion de son épouse et qu'il a perdu pied. C'est possible.
Pourtant, personne dans l'entourage des Godard n'a entendu parler de séparation. Une autre piste se dessine alors, celle de l'argent. L'été 1999, les Godard ne partent pas en vacances, car comme ils le confient à leurs proches, ils n'en ont pas les moyens.
Apparemment, ce qui est avéré, c'est qu'ils avaient des problèmes financiers.
Surprenant, car Yves Godard est propriétaire de deux voitures, d'une maison et d'un appartement. Et ses revenus sont conséquents, près de 11 000 euros par mois. Des revenus nets, puisqu'il refuse de s'acquitter de ses charges depuis 3 ans.
Il refuse de payer ce qu'on appelle l'URSSAF.
Il y avait un combat intellectuel du docteur Godard contre l'establishment social et fiscal. D'où l'intervention d'huissier, d'où on va retrouver des procédures en cours. Mais il en faisait plus une question de principe qu'un paravent cachant une impossibilité de payer.
Que fait-il de cet argent et de celui qu'il emprunte aux banques, à sa famille et même à des patients? Des sommes estimées à 460 000 euros. La réponse pourrait se situer à l'étranger.
C'est certain qu'il a dû penser à placer au maximum ses avoirs dans des comptes offshore, à droite et à gauche.
Il avait préparé, oui, certainement financièrement, un départ. De toute façon, c'est clair. Hein.
Effectivement, il y a bien des comptes à l'étranger, mais vides. Plus l'enquête progresse et plus le mystère s'épaissit. Si Yves Godard a tué sa femme, rien ne permet d'en déterminer la raison. Et qu'a-t-il fait de ses enfants, auxquels il tient tant ? À la gendarmerie de Rennes, les enquêteurs mettent la main sur des indices troublants. 15 jours après la disparition du bateau, une brassière de survie est découverte en mer, au large du cap de la Hague. Une semaine plus tard, un canot est repéré dans des rochers, cette fois de l'autre côté de la Manche.
On va découvrir le radeau de survie. Et le radeau de survie, il est gonflé. Et le radeau de survie, on ne va pas le trouver côté français, il va avoir traversé la Manche et on va le retrouver au sud de l'Angleterre. On va découvrir aussi plus tard un sac qui sera remonté, je crois, par un chalutier, le sac. Et dans le sac, il y a plein d'affaires qui appartiennent au Godard, au couple et aux enfants. Il y a des vêtements, il y a les permis de conduire de Marie-France Le Graveyran et de son époux Yves Godard. Il y a des cartes vitales, je crois, il y a des cartes bleues. On va retrouver un chéquier aussi du couple. On va retrouver du rouge à lèvres, on va retrouver des clés. Le sac, il pèse plusieurs kilos, le sac.
Des éléments repêchés bien loin les uns des autres. Et tous dans un état de conservation étonnant, après ce séjour en mer.
J'avais demandé des investigations particulières au juge d'instruction, et fait une demande spécifique à cet égard, d'une expertise maritime pour connaître du chef des courants et du chef des vents, à cette époque-là, s'il y avait une cohérence dans la découverte de ces objets. Et les conclusions ont été négatives de manière non équivoque. Donc il n'y a aucune cohérence entre les dates et les objets retrouvés.
Les experts l'affirment, s'il avait coulé, le bateau aurait dû se disloquer et de nombreux débris flottants seraient remontés à la surface.
Ça permet d'éliminer, surtout avec une mer très calme, un navigateur extrêmement doué, habitué, quasi professionnel qu'était le docteur Godard, la thèse d'un naufrage subi, ce qui n'est pas possible. En revanche, ça accrédite l'hypothèse qui demeure d'actualité, je dis bien l'hypothèse, d'un naufrage simulé.
Le docteur Godard serait donc toujours en vie. Une thèse d'autant plus probable que quelques semaines plus tard, il va être signalé ailleurs qu'en Bretagne.
Les gendarmes vont être destinataires de missives.
Deux petits mots anonymes qui sont un peu comme sur un post-it.
Écrites à la main, très facilement, très lisibles.
Et le premier, de mémoire, dit « Le docteur Godard, et ce qui est troublant, est sur l'île of Man, sauvé Camille et Marius. »
Ces lettres sont anonymes. À défaut d'autres pistes, les gendarmes vont s'y fier. En octobre 1999, ils s'envolent pour l'île anglaise, connue pour être un paradis fiscal.
On va avoir des témoignages dont certains sont assez troublants, mais qui sont uniquement sur des impressions visuelles.
Et c'est là tout le problème, car il n'y a aucune preuve formelle attestant de leur présence. Le 20 octobre, une seconde lettre de Corbeau arrive.
Il est désormais aux îles Hébrides, à l'île Lewis, sauvé Marius et Camille. Et donc les enquêteurs vont foncer de Man d'ailleurs directement en Écosse.
Ça va pas très bien se passer puisqu'ils vont être consignés à résidence et ils vont pas pouvoir mener les investigations en tous les cas aussi rapidement qu'ils le souhaitent puisqu'ils dépendent de la loi britannique.
Et pourtant, là encore, une dizaine de personnes assurent avoir vu les Godard quelques heures plus tôt. Peut-être même sont-ils toujours sur l'île Lewis alors que les gendarmes en sont expulsés.
Tout le monde était bien convaincu que si c'était bien Dr Godard et ses enfants, bon, voilà, on a peut-être pu éviter un drame.
Reste encore l'espoir d'identifier ce corbeau qui semble si bien informé.
Sur les deux mots anonymes du corbeau, de nombreuses investigations ont été opérées et toute la famille, y compris mes propres clients, sont passées au prélèvement salivaire pour recherche d'ADN. Énormément de proches de la famille, et de monsieur, et de madame, des cousins, des tantes, des voisins, des amis, tout le monde y est passé. Et on n'a jamais identifié qui que ce soit qui pouvait être l'auteur de ces mots anonymes.
Pour les enquêteurs, Yves Godard a cessé d'être un fantôme pour devenir un vrai fugitif. Un fugitif que l'on voit partout.
Après, il y a tous les gens qui vont dire avoir vu Yves Godard et les enfants partout dans le monde entier, quoi. Et là, après, vous êtes bien obligé de travailler sur ces pistes, hein. Il y a eu la Crète, il y a eu des gens même jusqu'en Chine. Voilà.
Godard, on l'a vu partout, mais il n'est nulle part.
Alors, où Yves Godard peut-il bien se cacher? Comment parvient-il à échapper aux gendarmes? Ce sont les questions que l'on se pose au printemps 2000. Mais c'était sans compter sur de nouveaux rebondissements. Alors que les enquêteurs recherchent le fuyard et ses enfants, un coup de théâtre va les ramener à la case départ. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2000, le coquiller, l'indomptable, fait une incroyable découverte dans la baie de Saint-Brieuc.
9 mois après la disparition de la famille, c'est des chalutiers d'Erquy qui font de la pêche à la coquille Saint-Jacques, qui remontent dans leur filet un crâne qui est en bon état. Un crâne humain, a priori en tous les cas, et ce crâne effectivement sera bien sûr expertisé. Et quelques jours plus tard, le laboratoire spécialisé en biologie moléculaire de Nantes donne son verdict, et il s'avère que c'est bien l'ADN, un ADN féminin qui correspond à la branche maternelle de la famille Le Gras-Véran. Donc on en déduit que c'est le crâne de la petite Camille.
Pour les proches des Godard, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe, car tout le monde était convaincu que les enfants était encore vivant.
C'est la stupeur. Et on dira que pendant quelques heures, quelques jours, beaucoup de Tillois étaient sans voix et portaient un deuil interne pour les enfants de la famille Godard.
C'est un choc aussi pour les gendarmes. L'enquête connaît un vrai tournant.
Pour les enquêteurs comme pour les magistrats, 50% des gens pensaient que c'était criminel, 50% accidentel. Donc c'est vrai que le crâne de Camille, retrouvé en baie de Saint-Brieuc, près du Petit Léjon, coup d'arrêt.
La thèse de la fuite à l'étranger est à présent largement remise en cause. Les investigations reprennent donc depuis le début, sans grand succès, jusqu'à ce qu'un petit poussé s'invite dans l'histoire.
En début d'année 2001, à 3 ou 4 mois ou 5 mois d'intervalle, des passants, des promeneurs, vont trouver des cartes professionnelles appartenant au docteur Godard. Elles vont être immédiatement analysées. Le labo ne va pas pouvoir se prononcer sur la durée effective de séjour dans l'eau de mer de ces cartes. En revanche, il va pouvoir indiquer qu'à l'évidence, elles n'ont pas séjourné pendant des mois, a fortiori pendant des années.
Les cartes auraient donc été déposées récemment à cet endroit. Un indice qui mène les gendarmes à la recherche de nouveaux éléments a effectué de vastes fouilles sur la plage des Ébiens.
Les gens qui nous ont mis les cartes se sont bien amusés de nous, puisque 3 semaines après cette opération de ratissage et tout, ils nous en mettent une cinquième à l'époque, 3 semaines après.
Quelqu'un se joue des gendarmes. S'agit-il de la même personne que le corbeau ou d'un autre informateur? L'affaire Godard devient une énigme, mais elle n'a pas livré tous ses rebondissements. Le 13 septembre 2006, 7 ans après la disparition de la famille, un bateau remonte des restes humains qui gisaient en plein milieu de la Manche.
On virait les filets normalement et on a trouvé le fémur et le tibia qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. On a pensé tout de suite, on a rigolé en pensant à Godard. La mer est grande, mais finalement c'est tout petit.
Une intuition rapidement confirmée par des analyses.
De l'expertise qui a été diligentée, qu'un ADN cellulaire extrait d'un des deux os a été identifié comme étant celui du docteur Yves Godard.
Cette découverte sonne le glas d'une traque qui aura duré quasiment 7 ans, jour pour jour.
Il y a une grosse déception. Hein. Moi, je sais que j'avais pris ça très mal au tout début, parce que ça vous arrête dans beaucoup de choses. Hein, Mais c'est ainsi.
Oui, tout ça pour ça, quoi. Avec un goût d'inachevé. On aurait envie, lorsqu'on suit comme ça pas à pas l'évolution d'une telle enquête, on aurait envie de savoir.
Et pourtant, Jamais on ne saura ce qui s'est véritablement passé cette nuit du 31 août 1999 dans le petit village de Tilly-sur-Seule et plus tard au large de Saint-Malo. Jamais on ne retrouvera le cadavre de Marius ni celui de Marie-France. 13 ans après la disparition de la famille Godard, le procureur a finalement décidé de rendre un non-lieu. Mais alors que l'on croyait cette affaire classée, un énième coup de théâtre pourrait la remettre sur le devant de la scène. De nouveaux ossements viennent d'être retrouvés sur une plage bretonne. Il semble que l'affaire Godard n'ait pas livré tous ses secrets.
Vous dire que ça me travaille tous les jours, oui. Vous dire que j'y repense tous les jours, oui. Je ne peux pas venir ici, à Saint-Malo, sans bien évidemment, sans y penser. Moi, je vais toujours au port des Bas-Sablons, oui. Le E79, l'emplacement, oui, ça c'est sûr. Ouais. Parce que c'est des enfants qui ont disparu dans des conditions qui, à mon avis, sont tragiques. Et puis, il y a des familles qui sont toujours dans le questionnement et qui n'auront peut-être jamais la réponse.
Les équipes de crime sont donc toujours installées en Normandie pour vous raconter des faits divers qui se sont déroulés dans cette région. Et je vous propose tout de suite de regarder une histoire incroyable qui s'est déroulée non loin d'ici.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Gaëlle, une jeune fille de 21 ans, mystérieusement assassinée chez elle, une nuit de printemps. Un meurtre d'une rare violence qui, 7 ans plus tard, continue de hanter la population de tout un village.
Qui en voulait à Gaëlle ? C'est une fille qui aimait pas les histoires. On vous la tue. C'est là que vous comprenez pas, on dit, mais pourquoi ?
Nous sommes en Basse-Normandie, dans le petit village d'Orbec, à la frontière de l'Eure et du Calvados. Au milieu des ruelles pavées et des maisons à colombages, la vie s'écoule paisiblement pour les 2400 habitants de cette bourgade tranquille.
Orbec, c'est la plus jolie ville qu'on ait dans le coin. C'est très joli, il y a beaucoup de choses, des manoirs, des églises. Il y a un plaisir de vivre à Orbec. Souvent, les gens qui viennent d'arriver disent « À Orbec, c'est un petit peu froid, mais ça, c'est pas froid très longtemps, on se plaît assez rapidement ici. »
Le 27 avril 2007, il est environ 18h30, lorsque Jean-Paul et Sylvie Fossé, les pâtissiers du village, commencent à s'inquiéter de ne pas voir arriver leur fille, Gaëlle. La veille, la jeune femme de 21 ans avait promis de passer les voir. Mais alors qu'elle devait être là vers 18h, les minutes passent et Gaëlle ne se montre pas.
Au début de la soirée, je ne m'inquiétais pas trop. Je disais, voilà, retard, ou elle fera les courses demain. Mais plus ça durait, je dis, oui, c'est pas normal, c'est pas dans son habitude. Même qu'elle ne serait pas venue à la maison, elle nous aurait téléphoné.
Et donc, ils décident d'appeler. Ils vont appeler plusieurs fois sur son portable et elle ne répond pas. Donc, sa mère dira qu'elle a appelé une quarantaine de fois.
Alors que le portable de la jeune fille sonne inlassablement dans le vide, ses parents décident de téléphoner à son petit ami, Steven. Depuis quelques mois, le couple s'est installé à 5 km de là, dans le petit village de Saint-Germain-la-Campagne. Ce que va leur expliquer le jeune homme ne va pas du tout rassurer les Fossés, car lui non plus n'a aucune nouvelle de Gaëlle.
Et là, vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Et donc son père, naturellement très inquiet, décide d'aller sur place.
Il est environ 22h, lorsque Jean-Paul Fossé, accompagné par deux amis de la famille, se gare devant le 15 de la résidence du parc. À première vue, tout semble indiquer que Gaëlle passe la soirée chez elle. Sa voiture stationne sur le parking et les lumières de sa maison sont allumées. Le père décide néanmoins d'en avoir le cœur net et s'approche de la porte d'entrée.
Il frappe, il sonne, pas de réponse. Et à ce moment-là, il entend le chien aboyer, donc ce qui est très bizarre, la lumière allumée et la télé à l'étage qui est restée aussi allumée.
Et malgré son insistance, la porte reste close. Il est extrêmement inquiet, car il le sait, le silence de sa fille n'est pas normal. Alors, avec un double des clés, il décide d'entrer dans la maison.
J'allume la lumière, je dis le chien est enfermé, parce que je l'entendais aboyer, dans le cagibi. Je dis le chien est enfermé dans le cagibi. Puis bon, dans la cuisine, on voyait qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas. Après, on passe dans la salle-salon, puis c'est là que j'ai découvert Gaël.
Le père de famille fait face à l'horreur absolue. Le corps de sa fille gît sans vie dans un coin de la pièce. Elle est couchée sur le dos, maculée de sang. Si tout semble indiquer qu'une scène violente a eu lieu dans cette maison, Jean-Paul Fossé, très perturbé, refuse de se rendre à l'évidence.
Il est extrêmement choqué par ce qu'il voit. Alors, dans un premier temps, il pense plutôt à un malaise ou à une chute.
Je voyais pas Gaëlle morte. Je pouvais pas dire que ma fille avait été assassinée.
Pour lui, à ce moment-là, cela ne fait aucun doute. Sa fille a été victime d'un accident domestique. Il est environ 22h30, les gendarmes sont prévenus. Mais alors, qu'est-il arrivé à Gaëlle ? Comment la jeune fille de 21 ans est-elle morte ? Et que vont découvrir les forces de l'ordre ? Il est environ 23h, lorsque les gendarmes de la compagnie de Bernay, accompagnés des pompiers, arrivent à la résidence du parc. En entrant dans la maison, ils sont très loin d'imaginer la tragédie qui s'est jouée entre ces murs.
Ils ne vont pas forcément au début savoir tout de suite que c'est un crime, et c'est en s'approchant du corps de Gaëlle que là, effectivement, ils vont commencer à comprendre.
On est là devant une jeune femme qui est nue, preuve qu'il y a eu des violences extrêmes pratiquées contre cette jeune femme.
Très vite, les gendarmes se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un meurtre. Le corps de Gaëlle est criblé de coups de couteau. Et si leur nombre est difficile à déterminer, une chose est sûre, il y en a des dizaines.
Il y a eu un incroyable nombre de coups. Certains portés dans le dos, d'autres dans le cou, d'autres au niveau de la tête, au niveau de la cage thoracique. Enfin, ça a été un véritable acharnement.
Le périmètre est bouclé et les techniciens de la brigade d'identification criminelle commencent immédiatement leur travail. Le sol de la maison est jonché de morceaux de verre et des meubles entravent le passage. Tout indique qu'une dispute violente a eu lieu. Mais l'arme du crime reste introuvable.
On va faire des prélèvements sur les verres, sur la vaisselle, sur les mégots de cigarettes.
Donc sur le pantalon de jogging de Gaëlle, on va identifier cette tache. Donc cette tache vont être relevées.
Les objets saisis sont envoyés au laboratoire d'analyse. Mais un détail, en apparence minime, va frapper les enquêteurs. La pièce est imprégnée d'une forte odeur de détergent. Et pour cause, l'agresseur a pris soin de nettoyer les lieux.
Le fait que la scène de crime ait été nettoyée, ça laisse à penser que le ou les auteurs savaient qu'ils avaient le temps, finalement.
Tout porte à croire que l'agresseur de Gaëlle connaissait son emploi du temps et savait qu'elle serait seule cette nuit-là. Mais ce n'est pas tout.
La porte était fermée à clé, il n'y a aucune trace d'effraction, donc a priori, la porte a été ouverte volontairement. Manifestement, on n'est pas venu pour voler des choses, parce que rien n'a disparu.
Gaëlle était une jeune femme prudente. Jamais, elle n'aurait ouvert la porte à un inconnu. Les enquêteurs écartent donc rapidement la piste du rôdeur. Et au vu des premières constatations, l'auteur de ce crime pourrait bien être une connaissance de la jeune fille. Une thèse qu'un dernier élément va venir accréditer.
Ils ont pris soin d'écarter le Rottweiler du couple qui a été enfermé dans le KGB. Alors, est-ce qu'il le connaissait ou pas ? Toujours est-il que les voisins n'ont pas entendu d'aboiement.
Et alors que les techniciens d'investigation criminelle procèdent aux dernières vérifications sur la scène de crime, les villageois comprennent qu'un drame vient de se jouer dans la maison de leur voisine. Face à cette étrange agitation, les premières rumeurs commencent à circuler.
Les gens regardent à travers le rideau. On sent qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de grave. Et du coup, les rumeurs les plus folles circulent. On parle par exemple qu'elle se serait fait manger par son chien. Enfin voilà, on atteint des choses totalement incroyables.
En l'espace de quelques heures, la nouvelle de la mort de Gaëlle s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, personne, pas même ses parents, n'a compris qu'il s'agissait d'un meurtre. Alors, comment ce village tranquille a-t-il pu être le théâtre d'un crime aussi horrible ? Et qui pouvait bien en vouloir à la jeune fille ? L'affaire est confiée à la section de recherche de Rouen, assistée par les gendarmes de la brigade de Bernay. Ce sont eux qui ont la lourde tâche de convoquer les proches de Gaëlle pour leur annoncer la terrible vérité.
Et donc, on va vous dire une chose incroyable, c'est que votre fille a été assassinée. Pas vrai. Comment voulez-vous croire quelque chose ? Qui en voulait à Gaëlle ? Vous dites que c'est une fille qui aimait pas les histoires, qui arrondissait toujours les angles, toujours pour... On vous la tue. C'est là que vous comprenez pas, on dit mais pourquoi ?
Et ce que livre la famille de Gaëlle de sa personnalité ne cadre pas avec le meurtre barbare dont elle a été victime. C'est le portrait d'une jeune fille exemplaire qui se dessine.
Gaëlle, c'était une très belle jeune fille, très naturelle. Je pense qu'elle ne soupçonnait même pas d'ailleurs les qualités qu'elle avait physiquement ou intellectuellement d'ailleurs.
Elle était gaie, elle était très sociable. Très, elle parlait à tout le monde, elle avait beaucoup d'amis, il fallait toujours qu'elle bouge, elle attirait beaucoup les regards.
Gaëlle est étudiante en ressources humaines. Et depuis 3 ans, son cœur est pris par Steven, un autre jeune du village. Le couple semble très amoureux et vient d'emménager ensemble. D'après Jennifer, la cousine du jeune homme, c'était le début d'une nouvelle vie.
C'est vrai que non, Steven, dès qu'il a entamé sa relation avec Gaëlle, il s'est posé, quoi. On a bien vu que il a trouvé la femme qui lui convenait.
Elle était très heureuse et une semaine avant le drame, elle me dit « pour l'année prochaine, je te ferai un bébé parce qu'avec Steven, c'est pour la vie ».
Un couple unanimement décrit comme harmonieux. Mais comme pour chaque enquête criminelle, les gendarmes vont vérifier de près l'emploi du temps du jeune homme, absent la nuit du drame.
On n'exclut rien. Et donc on se renseigne, y compris du côté du compagnon de Gaëlle Fossé. Il peut avoir une déception amoureuse dont les autres ne seraient pas prévenus, il peut y avoir n'importe quoi.
Son petit ami est rapidement mis hors de cause, puisque au moment, le soir du drame, il se trouve à Saint-Étienne en déplacement pour un déplacement professionnel.
L'alibi de Steven est vérifié. Plusieurs témoins l'ont aperçu dans la région stéphanoise, la nuit de la mort de Gaëlle. Les gendarmes décident alors d'élargir leur champ d'investigation.
Il y a vraiment un travail colossal des gendarmes, effectué par les gendarmes. Donc ils vont vraiment ratisser large. Hein. Le voisinage de Gaëlle, ses proches, sa famille, ses parents vont être entendus.
Les gendarmes vont interroger des dizaines de personnes. Mais voilà, aucune information utile ne ressort de ces auditions. À la grande surprise des enquêteurs, tous les voisins affirment n'avoir rien entendu.
Des gens ont forcément entendu du bruit cette nuit-là. Les logements sont très proches les uns des autres. Et il n'y a rien qui ressort dans l'enquête de voisinage. Donc c'est très étonnant.
Il y a vraie peur des gens de représailles. Il y a la thèse du rôdeur qui traîne toujours. Donc ça, les gens ont peur que cette personne revienne.
À Saint-Germain-la-Campagne, au fil des jours, une véritable psychose s'installe. les rues se vident, l'ambiance se fait de plus en plus pesante. Et le meurtre de Gaël alimente toutes les conversations. Si bien que le 7 mai, le maire décide d'organiser une réunion publique pour rassurer sa population.
Une soixantaine de personnes à peu près dans la salle. L'ambiance est aussi particulière, on se regarde de travers. Bon, le maire prend la parole, explique ce qu'il sait. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il ne peut pas dire grand-chose parce que l'assassin est peut-être tout simplement dans la salle.
Des investigations qui stagnent et une population qui s'enfonce dans la peur. La région d'Orbeck ne sait pas encore qu'elle est en train de vivre l'un des épisodes les plus marquants de son histoire. Un meurtrier arpente-t-il les rues du petit village tranquille ? Comment l'enquête va-t-elle basculer ? En l'absence de pistes tangibles, les enquêteurs attendent beaucoup des résultats de l'autopsie du corps de Gaël. Dans le rapport dévoilé au mois de mai, le médecin légiste évalue l'heure approximative de son décès à environ 24 heures avant sa découverte.
Elle aurait été tuée entre 22h30 et le reste de la nuit du jeudi au vendredi.
Le rapport fait état d'un véritable acharnement. Gaël a reçu 66 coups de couteau. Et alors que son corps a été découvert à moitié dénudé, aucune agression sexuelle n'est constatée. Cette autopsie permet à présent d'élaborer un scénario partiel de la nuit du 26 au 27 avril 2007. En fin de soirée, Gaël, seule chez elle, aurait ouvert la porte à son agresseur.
Elle peut être menacée par quelqu'un qui a un couteau, qui la contraint à se déshabiller, qui envisage peut-être une relation sexuelle. La personne lui échappe. On peut craindre à ce moment-là, je ne sais pas, qu'elle aille vers la porte, qu'elle essaie d'ouvrir, qu'elle essaie de s'enfuir, qu'elle essaie de libérer le chien.
Pour les gendarmes, c'est en tournant le dos à son meurtrier que Gaël aurait reçu le premier coup de couteau. Et c'est ce premier assaut qui va tout faire basculer.
Et bien là, on fait plus machine arrière, et puis on en donne 3, et puis on en donne 4, et puis la personne tombe, et puis on est pris de folie devant ce qu'on a accompli, devant ce à quoi on n'est pas parvenu éventuellement, et puis les coups de couteau s'enchaînent, se multiplient.
Alors là, c'est encore un autre coup sur la tête, en disant, bah, pourquoi l'acharnement ? Pourquoi ?
Quelques jours plus tard, un témoignage va faire avancer l'enquête. Une voisine raconte aux gendarmes que cette nuit-là, elle a vu un homme faire des allées et venues autour du domicile de Gaël.
L'homme qui a été vu par le témoin est un voisin proche de Gaël.
Cet homme, nous l'appellerons Thomas. Grâce à cette déclaration providentielle, les gendarmes décident alors de le placer en garde à vue avec 3 personnes de son entourage.
On va décider fin mai 2007 de placer plusieurs personnes en garde à vue, en fait 4 personnes. Ces 4 personnes sont entendues. À cette occasion d'ailleurs, on prend leur ADN, ce qui permettra des comparaisons ensuite.
Pendant cette garde à vue, le fameux Thomas va faire des déclarations pour le moins déconcertantes.
Il va dire qu'il ne connaît pas Gaël. Donc c'est très troublant parce qu'ils se connaissent en fait très bien. Ils ont été à l'école ensemble, jusqu'au collège, ils prenaient le car ensemble. Ils se connaissent très bien. Et puis ce voisin-là est un ami du compagnon de Gaël. Et donc il venait régulièrement les week-ends jouer à la console et fumer donc avec le compagnon de Gaël.
Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi mentir s'il n'a rien à se reprocher ? Mais voilà, Thomas nie toute implication dans le meurtre, tout comme les 3 autres auditionnés.
Et les personnes sont remises en liberté parce qu'on considère qu'à ce stade, on n'a pas suffisamment d'éléments, en dépit des questions qu'on se pose, notamment à l'égard du dénommé Thomas.
Les enquêteurs ont la sensation d'avoir affaire à un suspect sérieux, mais ils n'ont aucune preuve matérielle contre lui. Alors ces mensonges sont-ils la preuve qu'il cache une terrible vérité ? Est-il impliqué Dans la mort de Gaël. Les gendarmes vont attendre longtemps l'élément qui viendra confondre Thomas. Au début du mois d'octobre 2007, alors que Gaël est morte depuis presque 6 mois, les analyses sur les taches du jogging retrouvées sur la scène de crime vont enfin parler.
Et on va trouver des ADN en mélange sur une tache qui en fait est une tache de spermatozoïde. On a l'ADN de Steven Irwin en mélange avec celui de Gaël Fossé, celui d'une troisième personne, voire d'une quatrième.
L'enquête vient de vivre un tournant. Gaël aurait donc pu être victime de plusieurs agresseurs. Et ce n'est pas tout. Les gendarmes comparent ces deux ADN inconnus avec ceux relevés pendant les gardes à vue. L'un d'entre eux est compatible avec celui de Thomas.
On a un ADN compatible avec le sien qui se trouve sur une tache, a priori avec du liquide spermatique, à une place étonnante au niveau de la fesse, d'un vêtement qui ne sert à Gaël Fossé que dans la plus stricte intimité.
Pour les enquêteurs, cette trace ADN est la preuve qui leur manquait. Et un dernier élément joue contre Thomas. Il vient d'être placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre affaire d'agression sexuelle aux circonstances pour le moins troublantes.
Il se trouve qu'il est déjà incarcéré pour une affaire d'agression sexuelle, une affaire assez sordide qui a été jugée plus tard au tribunal de Lisieux où en fait, il s'est rendu au domicile d'une adolescente de 16 ans. En fracturant la porte-fenêtre, il s'est glissé sous les draps.
Si la jeune fille agressée n'a pas été violée, Thomas s'est introduit chez elle, alors qu'il la savait seule, tout comme Gaël. Pour les gendarmes, il semble avoir le profil d'un prédateur. Début octobre 2007, l'homme est de nouveau placé en garde à vue.
Il ne va pas pouvoir expliquer la présence de son ADN sur le pantalon de la victime. On va lui demander s'il n'a pas eu une relation, un rapport sexuel avec la victime. Et là, il va nier, enfin, il nie toute implication dans ce crime, mais il va quand même être mis en examen, écroué et placé donc en détention provisoire.
Commence alors une enquête de personnalité pour déterminer le profil de celui qui est dorénavant le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre.
C'est un jeune donc, qui est né à Orbeck aussi, comme Gaël. Donc ils se connaissaient, ils ont fréquenté les mêmes écoles. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'était quelqu'un qui aimait bien faire la fête, qui traînait assez tard le soir. Il enchaînait des petits boulots en intérim aussi.
C'est peut-être pas le modèle du petit jeune qui réussira plus tard, mais c'est pas forcément un délinquant en puissance, en tout cas à l'époque des faits, quoi.
Si Thomas n'est pas un modèle de vertu, cela ne fait pas de lui un meurtrier. D'autant qu'il continue à clamer son innocence. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Évreux, il va être soumis à une expertise psychiatrique.
Ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne souffre d'aucune pathologie mentale. On se rend compte qu'il a une personnalité assez compliquée avec les femmes. Il n'y a rien de plus, ce qui fait là encore pas de lui un coupable, un assassin.
Pour les parents de la jeune fille, cette mise en examen sonne comme une délivrance.
On s'est dit « Ouf, enfin !» C'est parce que c'est pas de la joie, c'est vraiment du soulagement. Enfin, quelqu'un va payer pour ce qui lui a été fait.
On se dit, il va peut-être être jugé, il va peut-être penser aux aveux, je sais pas. On se disait toujours ça, quoi.
On est toujours dans notre chagrin, de dire, de toute façon, ça nous rendra pas notre fille. Mais au moins, quelqu'un paye. Parce qu'elle avait rien fait, elle ne méritait pas ça. Donc, quelqu'un est en prison pour ça.
Les proches de Gaël attendent maintenant des aveux de la part de Thomas. Mais l'homme continue de nier. Tous espèrent un procès rapide et un coupable en prison. Mais Thomas est-il vraiment le meurtrier de Gaël? Comprendra-t-on enfin pourquoi la jeune fille est morte?
«
La défense de Thomas s'organise et demande de nouvelles analyses sur les traces ADN retrouvées sur le jogging de Gaël. Une stratégie qui va s'avérer payante.
Il apparaît en réalité que sur l'expertise ADN qui a été faite, les choses sont peut-être plus compliquées qu'on l'avait d'abord envisagé. C'est-à-dire que se posera la question de savoir si l'ADN qu'on a trouvé est un ADN qui se trouvait dans la partie intérieure du pantalon de jogging ou dans la partie extérieure. S'il est à l'extérieur, on imagine que peut-être ça peut être un très malheureux hasard.
Il pourrait donc s'agir d'un simple ADN de contact. En effet, le jeune garçon venait souvent chez le couple. La présence de son ADN à l'extérieur du jogging ne serait donc pas la preuve de sa culpabilité. Pour la première fois, dans cette affaire, le doute va lui être favorable.
Donc ça fait 19 mois que Thomas donc, est en détention provisoire. Donc c'est pour son avocat, ça paraît inconcevable. Donc il va obtenir finalement sa mise sous contrôle judiciaire en mai 2009.
Ça veut dire qu'il reste mis en examen pour assassinat, il reste le principal suspect, mais il est libre.
Thomas décide alors de changer de vie. Il quitte la région d'Orbec pour s'installer dans le sud de la France. Mais pour les proches de Gaël, sa remise en liberté 2 ans après la mort de la jeune femme est extrêmement difficile à admettre.
Ça, c'est très mal vécu, notamment par la famille, évidemment, qui ne comprend pas, pour elle, où on allait tout droit vers un procès.
Avec le dossier qu'il a, ils l'ont libéré. C'est alors, vous êtes impuissant. Il est libéré.
Et les mauvaises surprises ne vont pas s'arrêter là pour les parents de Gaël. À la fin de l'année 2010, la mise en place de la réforme de la carte judiciaire fait fermer le tribunal de Bernay en charge du dossier depuis le début.
Donc le dossier est transféré à Évreux. Manifestement, dans un état assez déplorable, un peu sans dessus-dessous. En gros, il faut repartir de zéro.
Mais au parquet d'Évreux, en 2 ans, ce ne sont pas moins de 6 juges d'instruction qui se succèdent sur ce dossier, sans grand résultat. Si bien qu'au mois de décembre 2013, la famille Fossé, excédée par la lenteur judiciaire et terrifiée par l'idée d'un non-lieu, décide de médiatiser l'affaire.
Et ils ont contacté les journaux locaux, les radios nationales, les chaînes de télévision, parce qu'ils sont confrontés à un système, à une justice qu'ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais eu affaire à la justice. Ils se retrouvent face à un système où le secret est très important dans une enquête, mais le problème, c'est qu'ils ont besoin d'informations.
Les parents de Gaël, toujours restés très pudiques, se sont à présent lancés dans un véritable combat. Avec l'aide d'une amie de leur fille, ils créent une page internet en hommage à Gaël. Le résultat est au-delà de leurs espérances. En 1 mois à peine, ils recueillent près de 1500 soutiens.
Ça permettait aussi de tous se retrouver au même endroit pour parler de Gaël, des anecdotes sur elle, la faire revivre un petit peu à travers nos mots finalement. Et puis pour montrer à la justice que voilà, qu'on est là, qu'on y croit encore, qu'on souhaite que les choses bougent.
Et on a vu plein de soutien. Alors j'avoue que là, ça nous a fait du bien. Et on s'est dit, on n'est pas tout seul.
7 ans après le drame, malgré des centaines d'auditions, un énorme travail de terrain et la mise en examen d'un suspect, le meurtre de Gaël Fossé reste l'un des plus grands mystères judiciaires de Basse-Normandie.
C'est une affaire qui, sur le papier, a l'air simple. C'est un crime qui s'est passé en soirée, dans un lotissement qui n'est pas non plus isolé, il y a des voisins, mais il y a encore énormément de zones d'ombre dessus. On est 7 ans après, on ne sait toujours pas qui a tué, pourquoi, et on ne sait pas combien de personnes ont agi ce soir-là.
Dans la région d'Orbec, personne n'a oublié Gaël, cette jolie fille de 21 ans, promise à un bel avenir. Pour que sa mort ne reste pas impunie, ses proches se battent chaque jour pour que l'enquête reste ouverte. Car tous espèrent découvrir la vérité pour enfin recommencer à vivre.
Pour nous, ça s'est arrêté il y a 6 ans et demi. Les seules joies, notre fils, notre petit-fils. Ça, c'est notre rayon de soleil. Mais on ne vit pas, on ne sort plus. En plus, elle nous manque sans arrêt. Plein de choses qui pourraient se faire, tous les mariages, les baptêmes, les fêtes de famille, se font sans elle. Je sais bien qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison, mais là, c'est un crime. C'est pire que tout, quoi. Et je pense qu'on doit tout faire, et ils doivent tout faire pour que quelqu'un paye, que ce soit pour Gaëlle ou pour toute autre jeune fille ou jeune homme qui est tué.
Crime installé en Normandie avec cette histoire qui s'est déroulée le 19 mai 2009 aux abords de Louviers. Un homme aperçoit de la fumée qui se dégage d'un pavillon. Il prévient alors les pompiers qui vont découvrir le corps d'une jeune femme, Claire, qui est institutrice. C'est ce document que je vous propose tout de suite de regarder dans Crime.
Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment un père de famille, apprécié de tous, va faire voler en éclats sa vie en se rendant coupable d'un terrible crime. Un crime aussi sanglant qu'imprévisible qui plongera toute une région dans l'indignation et l'incompréhension.
L'espace de quelques secondes, elle sait que son mari est en train de lui donner la mort.
Louviers, une petite bourgade normande de 19 000 habitants située dans l'Eure. À mi-chemin entre la ville et la campagne, Louviers est particulièrement prisé des familles en quête d'un cadre de vie idéal.
Louviers est une ville où on peut se promener dans la rue à toute heure du jour et de la nuit sans inquiétude. Les relations de voisinage sont courtoises. Bien entendu, c'est pas le paradis. Hein, mais en tout cas, il n'y a à Louviers pas un taux de délinquance susceptible d'inquiéter les gens.
Pourtant, en ce mois de mai 2009, un des habitants du village voisin, que nous appellerons Henri, va être témoin d'une scène inhabituelle, à quelques pas de son propre domicile.
J'étais en train de dîner dans ma cuisine et j'ai vu des volutes de fumée passer. Et arrivé au coin de ma maison, j'ai découvert que la maison de mon voisin brûlait. Donc je suis revenu et j'ai appelé tout de suite les pompiers.
Immédiatement alertés, les pompiers de la caserne de Louviers-Val-de-Reuil comprennent l'urgence de la situation. Quelques kilomètres seulement séparent leur caserne de la maison en proie aux flammes. En attendant leur arrivée, Henri, terrorisé à l'idée que ses voisins soient piégés à l'intérieur de leur maison, tente d'intervenir.
Je m'approche de la fenêtre d'où sortait vraiment le feu, quoi. J'entendais les carreaux exploser et la chaleur était à un tel point que j'ai dû reculer et retourner sur la rue parce qu'il était impossible de rester entre les deux maisons.
Sur place, les pompiers qui savent grâce à Henri qu'à 7h de la matinée la maison est habitée, parviennent enfin à maîtriser l'incendie. Après de longues minutes, ils pénètrent dans la demeure. Ils découvrent alors un intérieur complètement calciné et craignent le pire.
Ils s'introduisent à l'intérieur de la maison et assez rapidement, ils tombent sur le foyer principal du feu qui est donc dans la chambre à coucher. Et dans la chambre à coucher, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'en effet, il y a un corps.
Ce corps sans vie, c'est celui d'une femme qui gît dans une des chambres de la maison au pied d'un lit. Alors la victime est-elle la propriétaire des lieux? Comment cette femme s'est-elle retrouvée prise au piège par les flammes? Non loin de Louviers, le corps d'une femme vient d'être découvert dans les décombres d'une maison ravagée par les flammes. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un homme, hagard, pousse les portes de la gendarmerie de la petite bourgade. Il a une déclaration effroyable à faire.
La première chose qu'il vient dire, quand il vient sonner à la gendarmerie, c'est « Je viens de tuer ma femme. Je viens de mettre le feu à la maison. »
Un homme qui se constitue prisonnier et qui affirme avoir tué sa femme quelques heures plus tôt, de mémoire de gendarme, on n'avait jamais vu ça à Louviers.
Les gendarmes sont extrêmement surpris de le voir débarquer ce jour-là et dire « voilà, j'ai tué ma femme et je viens me livrer à la gendarmerie ».
Ils ne savent pas ce qui vient de se passer et c'est lui qui explique, donc, devant des gendarmes médusés.
Et s'ils sont stupéfaits, c'est précisément parce que cet homme est loin d'être un inconnu. Nous le nommerons Pierre Guillaume. C'est une figure incontournable de Louviers.
Tout le monde connaît Pierre Guillaume en ville. C'est le moniteur d'auto-école. Alors voilà, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui c'est.
Il est apprécié de ses salariés. Il est apprécié de ses élèves. Il est apprécié par les examinateurs.
C'est un homme sérieux qui aime son travail et qui n'a pas de côté agressif vis-à-vis des gens.
Pierre Guillaume est alors immédiatement conduit sur les lieux du crime. Les gendarmes découvrent avec effroi qu'il disait vrai. La maison brûlée est bien la sienne. Et c'est Claire, sa femme, qui gît sur le sol. Et visiblement, il lui a fait endurer un véritable calvaire.
Elle porte sur les mains des traces qui signent une position de défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et l'expert médico-légal est très formel par rapport à cela, elle a fait face à son agresseur. Elle s'est défendue à tel point qu'elle en a subi des lésions sur les mains. Il y a deux doigts qui sont quasiment intégralement sectionnés, c'est-à-dire la violence des coups qui ont été portés.
Au total, Claire présente une vingtaine de plaies béantes. Des blessures provoquées par un objet tranchant et contondant. Les enquêteurs ne tardent d'ailleurs pas à retrouver à proximité du corps une tête de hache. Et comble de l'horreur, les débris calcinés d'une arme qui ressemble en tout point à une arbalète.
La première réaction est une réaction d'incrédulité. Ensuite, bien sûr, une réaction d'horreur devant la nature des faits rapportés. Un crime de cette sauvagerie, c'est quelque chose de tout à fait inconnu dans l'histoire locale.
Placé en garde à vue, après ses aveux morbides, Pierre Guillaume va devoir expliquer son geste. Pourquoi s'en est-il pris aussi violemment à sa femme? Que s'est-il réellement passé dans cette maison, d'ordinaire si tranquille, la nuit du 19 mai 2009? Dans les locaux de la gendarmerie de Louviers, Pierre Guillaume raconte, par le menu, le drame qui vient de se jouer dans sa maison familiale. La veille de son terrible passage à l'acte, sa femme, Claire, s'était rendue comme à son habitude à son cours de chant en vue de préparer un grand concert.
Toute la chorale se retrouve au Grand Forum pour la répétition générale et donc Claire est là avec nous, participe à cette répétition, ça se passe dans la joie, dans la bonne humeur, on rigole, on chante. Personne ne soupçonne que quelque chose de dramatique se prépare.
Une fois les répétitions terminées, Claire rentre chez elle et retrouve son mari et ses enfants âgés de 3 et 5 ans. Plus tard, dans la soirée, elle se couche tranquillement, sans imaginer une seule seconde qu'elle vit ses derniers instants. Vers 4 heures du matin, Pierre Guillaume, qui dort auprès de sa compagne, se lève et met à exécution son plan machiavélique.
Il sort de la chambre du couple, il se rend au sous-sol de la maison, se saisit de l'arbalète.
Pendant de longues minutes, l'homme, déterminé, attend patiemment le bon moment pour charger son arme et appuyer sur la détente.
Il tire un carreau d'arbalète, probablement donc dans le cou. De sa femme. Alors, première chose assez incroyable, ça ne la tue pas.
Il va simplement blesser légèrement Claire Napin, qui va se réveiller sous le coup, évidemment, d'une douleur importante.
Subitement sortie de son sommeil, Claire ne réalise pas que son propre mari vient de tenter de l'assassiner. Sonnée, c'est tout naturellement qu'elle l'appelle à l'aide.
Il va dans le réfrigérateur pour prendre des glaçons, pour les mettre sur sa tête pour qu'elle ne souffre pas. Et en même temps qu'il va chercher ses glaçons pour lui appliquer sur la tête, il va chercher une hache.
Et il assène à ce moment-là une vingtaine de coups de hache à sa femme.
Torse, dos, tête. Aux enquêteurs, Pierre Guillaume raconte que durant de longues minutes, il s'acharne sur sa femme. Il ne s'arrêtera, selon ses propres mots, que lorsqu'elle cessera de bouger.
Claire est victime d'un coup de la lame de la hache qui va fracturer sa voûte crânienne et qui va emporter la mort presque instantanément. Mais avant que ce coup soit porté, elle est face à son agresseur et incontestablement, elle comprend ce qui est en train de se passer. L'espace de quelques secondes, elle sait que son mari est en train de lui donner la mort.
Une fois sa macabre entreprise terminée, Pierre Guillaume prend une douche, car l'homme ne veut pas effrayer ses enfants qui dorment paisiblement à l'étage et auxquels il réserve le même sort.
Il monte à l'étage, il écoute les enfants dormir et puis finalement il ne passe pas à l'acte.
Devant le constat des souffrances infligées à Claire Pien, il va faire le choix d'arrêter son projet mortifère et ensuite de mettre en place un scénario tout à fait différent.
Conscient de l'atrocité de son crime, Pierre Guillaume choisira finalement d'épargner ses enfants.
Il redescend, il va mettre un peu d'ordre de façon à ce que les enfants ne se rendent compte de rien. Il va aller réveiller les enfants, il va leur préparer leur petit déjeuner.
Il les emmène à l'école. Il va lui-même passer à son travail, à son auto-école, dire qu'il ne viendra pas travailler ce jour-là parce qu'il a un peu mal à la tête. Et ensuite, il revient chez lui pour une mise en scène assez macabre.
De retour chez lui, Pierre Guillaume enveloppe le corps de sa femme avec une couverture. La suite de son récit glace le sang.
Et là, il va commencer un travail qui va consister à faire disparaître toutes les traces de l'assassinat. Et puis, il va surtout asperger toute la maison de combustible. On découvrira ensuite que c'était du fioul. Il va également recouvrir le corps de Claire avec un certain nombre de documents qui proviennent de son auto-école. Et il va ensuite mettre le feu à la maison.
Alors que sa maison brûle, avec à l'intérieur le corps de son épouse, Pierre Guillaume prend son véhicule, fait le tour du pâté de maison et s'installe dans un champ pour assister à ce spectacle des plus morbides.
Il regarde sa maison en flammes, il voit les pompiers arriver, il voit les pompiers éteindre son incendie. Encore une fois, ce n'est pas le scénario qu'il avait imaginé.
Et constatant que les pompiers arrivent, il en déduit évidemment logiquement que l'incendie va s'arrêter, que tout ne disparaîtra pas dans les flammes, et que donc on va retrouver évidemment les traces de ce qui s'est passé au premier chef, le corps de Claire Pien. Et motif pris de tout cela, il va se rendre à la gendarmerie.
Les enquêteurs savent désormais ce qui s'est passé dans la nuit du 19 mai 2009. Reste à savoir pourquoi ce père de famille de 39 ans s'est rendu coupable d'un crime d'une telle barbarie. Un crime que rien ni personne n'a vu venir. Alors, quel est le terrible secret que cache cet homme, en apparence sans histoire ? À Louviers, quelques heures ont suffi pour que la nouvelle de la mort de Claire se répande. Dans cette petite ville de 19 000 habitants, la barbarie de son meurtre provoque une véritable onde de choc.
On se demande si on est dans un autre monde, quoi. Est-ce que l'on est parachuté dans un autre monde ou quoi ? On ne comprend pas. C'est pas possible de voir un couple comme ça et en arriver de là, quoi. qu'est-ce que... C'est hallucinant, quoi.
Et pour cause, commerçants, voisins, habitants de Louviers et des environs, tous ont entendu parler de l'instructeur d'auto-école et de sa femme. Un couple exemplaire. Ils s'étaient installés dans la petite commune en décembre 2002 et jouissaient d'une excellente réputation.
C'est un couple qui fonctionne bien, c'est une famille qui fonctionne bien, c'est un homme qui est doux, agréable.
C'est un garçon gentil, il a fait tout bien, il travaille, il est travailleur, c'est pas quelqu'un qui s'est battu en permanence avec les uns et les autres, il n'a pas de casier judiciaire.
Il a les soucis de Monsieur Tout-le-Monde, il a la vie de Monsieur Tout-le-Monde, il a la famille de Monsieur Tout-le-Monde, il vit dans la ville de Monsieur Tout-le-Monde.
Et cet homme est en réalité le premier amour de Claire. La jeune femme n'a que 14 ans lorsqu'elle rencontre celui qui deviendra son compagnon. Après 8 années de vie commune, le couple voit arriver son premier, puis un second enfant. Mère épanouie, Claire l'est tout autant dans sa vie professionnelle.
Claire est une institutrice dans une école de Louviers, très connue, très appréciée par son rôle.
Donc on se promène en ville, on croise Claire facilement en dehors de la chorale ou du travail.
Face à cette vie en apparence sans faille, les enquêteurs sont démunis. Alors en garde à vue, pour expliquer son terrible geste, Pierre Guillaume invoque une descente aux enfers. Il raconte que depuis plusieurs semaines, son auto-école, à laquelle il tenait, rencontrait de sérieuses difficultés. L'homme parle même d'une dette de près de 20 000 euros.
Il a tenté de fournir des explications rationnelles à son geste. Il a dit, voilà, mon auto-école était en train de mal fonctionner, donc Claire allait me quitter, c'était la catastrophe, il fallait que je la tue.
Problème, après avoir mené de longues investigations, les enquêteurs vont s'apercevoir que la santé financière de l'entreprise de Pierre Guillaume n'était pas si alarmante qu'il le prétendait.
On va découvrir en réalité que oui, il y avait quelques difficultés financières, que bien entendu il y avait de la négligence dans la manière avec laquelle il gérait ses affaires, mais certainement pas au point ni d'envisager une faillite, ni de licencier son personnel, ni de mettre un terme à son activité.
Il faisait en sorte finalement de se mettre dans une situation de danger économique. Donc il était en train de planter son auto-école.
Mais alors, pourquoi Pierre Guillaume aurait-il organisé sa propre faillite? Et à qui aurait-elle profité? Des questions auxquelles les enquêteurs vont tenter de répondre en multipliant les auditions en vain.
On a une absence complète de mobile. On a cherché partout. On est allé chercher chez ses clients, savoir s'il n'y avait pas une liaison, si sa femme n'avait pas une liaison, s'il n'y avait pas des problèmes particuliers qui pourraient justifier. Rien. Et on ne trouve rien. Et même les enquêteurs qui restent avec un gros point d'interrogation disent, sincèrement, on n'a rien.
Il n'a pas de raison raisonnable, raison rationnelle, ou même raison folle, de tuer son épouse et ses enfants. Très souvent, dans les meurtres conjugaux, on a la jalousie, on a le sentiment d'infériorité, le sentiment d'être dominé contre lequel on se révolte, ou on a des troubles dans le genre alcoolisme, violence habituelle, etc. Là, pas du tout.
Adultère, problèmes financiers, routine. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes, mais personne, pas même Pierre Guillaume, ne semble être capable de trouver la moindre explication au terrible meurtre de Claire. Reste une ultime piste, le passé de Pierre Guillaume. Les gendarmes y trouveront-ils enfin les éléments de réponse qu'ils cherchent depuis si longtemps ? À Louviers, les enquêteurs sont dans l'impasse. Aucun élément ne permet d'expliquer le mobile de Pierre Guillaume. Pourtant, pendant sa détention provisoire, l'homme va parler et va tenir des propos plus qu'inquiétants.
Petit à petit, l'enquête va révéler des scénarios les plus divers et quelque chose, encore une fois, qui se joue dans la tête de Pierre Guillaume depuis des années et qui va se révéler ce jour-là et avec ce passage à l'acte extrêmement, extrêmement violent.
La seule explication, elle est à l'intérieur de sa boîte crânienne, à mon sens, elle est d'ordre psychiatrique.
Pierre Guillaume évoque des pensées morbides et suicidaires qui le hantent depuis son plus jeune âge. Auparavant, il n'en avait jamais parlé.
Ça a commencé chez lui à 17-18 ans. Il a continué à vivre avec ça sans jamais résoudre ce malaise. Donc les autres le trouvent bien, le trouvent gentil, le trouvent amoureux, c'est un bon père de famille. Et lui, à l'intérieur de lui, il se dit « je ne suis pas du tout comme ça ». En fait, je suis quelque chose d'un peu monstrueux. J'ai envie de tuer tout le monde, j'ai envie de me suicider. Donc il vit comme une dépression interne. Et cette dépression ne sort pas à l'extérieur. Donc on ne la voit pas.
Une grave et profonde dépression qui va mener Pierre Guillaume à construire, au fil des années, une double personnalité que personne n'avait jamais décelée.
Il a toujours vécu en permanence sur deux plans différents. Le plan concret, relationnel, amical, amoureux, où tout se passe bien. Et puis, c'est comme si à l'intérieur de lui, il y a une autre personne.
En lui, il y a cette espèce de monstre qui s'est développé, qui a pris de la force, de l'ampleur, qui l'a obsédé, qui l'a envahi. Et puis le monstre a fini par l'emporter sur la personne que tout le monde connaissait.
Selon lui, ce double serait donc une espèce de démon dont il ne parviendrait pas à se débarrasser. Pire, ce personnage diabolique aurait même pris le contrôle de sa vie au point de le pousser à assassiner sa femme.
Ça va être une partie de sa ligne de défense, d'expliquer que en réalité, c'est pas lui qui a commis les faits, c'est pas lui qui décide de mettre le feu, c'est pas lui qui utilise l'arbalète, c'est quelqu'un d'autre qui est lui mais qui n'est pas lui, et que lui, le vrai Pierre Guillaume, ne fait qu'être le spectateur de ce que commet cet autre lui-même qui est là.
Ce qu'on peut se demander, ce que je me demande, c'est comment personne n'a vu ça.
Ce serait donc le gentil Pierre Guillaume qui aurait agi sous les ordres du Pierre Guillaume maléfique.
Il va aller acheter cette arbalète. Il va faire des essais avec l'arbalète sur un casque de ski pour voir si en effet ça pénètre bien le casque, donc potentiellement la boîte crânienne, pour éviter de me faire peur.
On va retrouver une boîte de chocolat en poudre transpercée par des carreaux d'arbalète parce qu'il s'est entraîné à utiliser cette arme.
Pour les enquêteurs, Pierre Guillaume ment. Il a tout simplement prémédité le meurtre de sa femme. Une préméditation incompatible avec l'acte d'un homme qui se dit atteint d'une maladie mentale.
Ce luxe de détails, cet entraînement qui est le sien pour être sûr en réalité d'arriver à ses fins, colle très très mal avec une bouffée délirante ou avec un passage à l'acte sous l'emprise d'un trouble neuropsychique.
Alors, Pierre Guillaume a-t-il délibérément inventé un personnage diabolique dont il aurait été victime pour expliquer son geste? Était-il en pleine possession de ses moyens lors du meurtre de sa femme? C'est ce que le procès à venir va devoir déterminer. Trois ans après le terrible meurtre de Claire, le procès de Pierre Guillaume s'ouvre à la cour d'assises d'Évreux. Tout le monde veut voir celui qui a tué sa femme à coups de hache et d'arbalète la nuit du 19 mai 2009.
S'il y a un mot, c'est l'incompréhension. Personne ne comprend pourquoi ce monsieur qui est venu manger le dimanche en famille, qui avait une vie normale, qui était plutôt quelqu'un de sympathique. Pourquoi ça s'est passé comme ça?
Dans le box des accusés, c'est un Pierre Guillaume abruti par son traitement médical qui se présente. Car depuis son terrible crime, il a déjà séjourné à trois reprises en hôpital psychiatrique. Les rares mots qu'il prononce sonnent comme des aveux de culpabilité.
De ses premières phrases vont à sa famille, aux parents de sa femme, ses beaux-parents. Je crois qu'il dit Claire pourra plus, elle aura plus de moments heureux, elle pourra plus profiter de moments heureux avec nous. Et je suis désolé, je voulais pas ça.
Il n'a aucun mot de haine à l'égard de son épouse. Il ne lui reproche rien. C'est comme si elle était quelqu'un de parfaitement abstrait. Alors c'est très dur de dire ça pour les victimes, pour la famille. Mais il a tué cette femme sans aucune raison de la tuer.
Tout au long de son procès, Pierre Guillaume ne cesse d'invoquer cette force démoniaque qui le hante depuis son adolescence. Mais dans la cour, personne ne croit ni ne comprend sa double personnalité.
Là, il y a quelque chose, une logique qui nous échappe, me semble-t-il, entièrement. Comment est-ce que l'on peut expliquer qu'une personne soit obsédée par la mort de la personne qu'il aime le plus, qu'il y pense en permanence, qu'il la prémédite depuis des années, qu'il finisse par passer à l'acte, tout ça pour la protéger.
Malgré les nombreux témoignages, c'est le statu quo. Le président de la cour décide alors de s'en remettre aux seules personnes capables, à ce stade, de faire la lumière sur le mobile du crime, les experts psychiatres.
Le premier collège d'experts va dire qu'il y a un syndrome dissociatif, va reprendre en réalité ce qu'explique Pierre Guillaume, c'est-à-dire qu'il est spectateur de son propre comportement. Et pour les premiers experts, ça signe une pathologie de type schizophrénique. C'est-à-dire qu'on a affaire à un sujet qui n'est pas responsable de ses actes parce qu'il n'est pas l'acteur des actes qu'il commet.
Le second collège affirme que le discernement de Pierre Guillaume n'était pas aboli au moment des faits. C'est un troisième collège qui va trancher. Il conclut que l'homme était en pleine possession de ses moyens lorsqu'il a sauvagement abattu sa femme. Il est donc condamné à 14 ans de réclusion criminelle.
On a tous presque que des questions à l'issue de ce verdict. 14 ans de réclusion criminelle, c'est effectivement un verdict en demi-teinte. On se dit sur quoi est-ce qu'ils se sont basés pour rendre ce jugement, probablement sur la sauvagerie de l'acte.
Malgré la relative clémence de sa peine, Pierre Guillaume a décidé de faire appel. Il espère, lors d'un second procès à venir, que l'altération de son discernement soit reconnu, et par là même, son irresponsabilité pénale. En attendant cette seconde épreuve, la famille de Claire vit dans le souvenir de cette femme à qui tout souriait, et tente, malgré l'horreur, de donner à ses enfants une vie paisible.
Ils ont deux petits-enfants qui sont là, qui grandissent sans leur mère, avec une mère qui a été massacrée par leur père, avec un père qui est enfermé entre quatre murs et qui n'est pas raisonnable. C'est quelque chose dont on ne peut pas se remettre.